familiariser la chose, sans se rentrer dans des détails qui nous perdraient. Enfin, vous avez besoin d'un papa et d'une maman. Le papa, il va apporter son pollen. La maman, elle va apporter la fleur avec son pistil. Donc on va prendre une fleur qui n'est pas encore ouverte, on va enlever la couronne de pétales, enlever la couronne d'étamine, et on va garder que le pistil qu'on va recouvrir d'un petit capuchon pour éviter qu'un insecte vienne faire une pollinisation
sauvage, quoi.
Qui ne correspondrait naturel, pas à ce qu'on veut. Donc vous avez le quand la maman est prête, si on peut appeler ça comme ça, vous prenez un petit pinceau avec du pollen du papa et vous allez badigeonner le pistil de la maman. La fécondation est quasiment immédiate. Vous obtenez un fruit qu'on appelle le cynorhodon, chez le rosier. Et dans le fruit, vous avez les enfants qui sont les graines. Donc les graines vont être semées au mois de décembre suivant l'hybridation qui a lieu en été. Et vous avez très rapidement au printemps, c'est ça l'avantage du rosier, au bout de 6 mois, vous avez déjà un instantané de l'hybride, parce que l'hybride va fleurir très rapidement. Au bout de quelques mois, vous avez déjà un instantané de la fleur. Donc pour nous, c'est très intéressant, mais c'est que le début d'un long chemin, d'un très long chemin, parce que
est-ce que toutes les graines vont donner la même chose? Parce que c'est ça la génétique aussi.
Chaque graine est unique.
Et du coup, donne une fleur différente.
Chaque graine est unique, vous semez des milliers de graines, vous aurez des milliers d'hybrides qui seront tous différents les uns des autres. Et c'est là que le travail de l'obtenteur, de l'hybrideur va rentrer en jeu pour justement observer ces différents hybrides, les sélectionner, certains qui vont être éliminés parce qu'aucun intérêt, et ceux qui ont peut-être un intérêt vont être sélectionnés, vont être plantés dans des champs et vont être observés pendant 6 à 7 ans.
Ah oui, c'est-à-dire 6 à 7 années pour observer si la variété vaut le coup.
Parce que les critères de sélection sont au premier chef la résistance aux maladies aujourd'hui. Et suivant les saisons, suivant les années, vous avez des années très humides, très froides, d'autres très chaudes. Et donc les maladies évoluent en fonction du climat. Donc avec ces différentes années d'observation, pour savoir si la plante se comporte bien quand il pleut, la fleur ne pourrit pas, des choses comme ça. Si la fleur va remonter en floraison, va refleurir. Donc pendant 6 à 7 ans, on va observer cela, mais on part d'un individu. Et donc après, quand on a trouvé un élu, si on peut dire ça comme ça, si un hybride, potentiellement pour nous, va devenir une variété, après il faut le multiplier. Et c'est là que rentre en jeu la multiplication végétative, soit par bouturage, soit par greffage. Donc nous greffons les rosiers, parce que quand le rosier est bouturé ses propres racines, on ne sait pas comment il va évoluer dans les terrains. Alors que sur un rosier greffé sur une sorte d'églantier, on sait que dans n'importe quel pied de terrain, il va bien se développer.
L'églantier, du coup, devient le pied neutre, si j'ai bien compris.
L'églantier sont les racines.
Juste les racines, ouais.
L'églantier va accueillir la variété.
D'accord. Et quand ça va fonctionner, après le rosier va vivre de longues années.
On est en Normandie aujourd'hui, donc j'aurai une réponse normande, mais je vais quand même expliquer après. C'est-à-dire qu'on me demande souvent combien de temps va durer un rosier. Alors j'ai toujours la même réponse, un certain temps.
Oui.
Mais pour être plus précis, parce que on va arrêter la blague, un rosier, mieux il sera entretenu. Alors c'est pareil, c'est une napalissade, mais mieux il sera entretenu, mieux il sera arrosé, mieux il sera nourri, mieux il sera taillé, plus longtemps il durera. Et les différents types de rosiers que nous avons, des rosiers buissons, des rosiers arbustifs ou des rosiers grimpants. Donc un buisson, s'il est bien entretenu, 30-40 ans, c'est déjà un bel âge.
Ah ouais.
Et donc au bout de 40 ans, il commence à s'épuiser un petit peu, il est temps potentiellement de le changer. Un arbustif un peu plus, parce que c'est un peu plus costaud. Et les rosiers grimpants peuvent durer 50-100 ans.
Ah oui, ça veut dire qu'on est quand même sur des espèces qui vivent très longtemps.
Nous, on n'est pas sur le produit, sans être péjoratif, on n'est pas sur la rose de fleuriste qui va durer une semaine, mais qui est merveilleuse, parce que chez vous, elle va être merveilleuse pendant une semaine dans votre salon. Nous, on est sur la durabilité, c'est-à-dire on est sur des rosiers de jardin, et le but du jeu, pour nous, en tant que rosieriste de chez André Ève, c'est que ça dure le plus longtemps possible chez vous et que vous soyez le plus content et le plus longtemps possible content. Voilà. C'est pour ça qu'on passe notre temps à renseigner les clients sur le devenir de leurs rosiers ou comment les entretenir.
Justement, quand on est venu vous prendre contact tout à l'heure avec vous, vous étiez en train d'expliquer comment passer un rosier sur une structure, comment le coucher, le former, un peu comme on voulait, quoi. Ouais.
Alors c'est vrai que j'ai une voix qui porte un petit peu, donc c'est plus facile sur le stand de capter un petit peu l'attention des gens, mais il y a une demande extraordinaire au niveau du public, au niveau de nos clients. Il y a une demande de renseignement qui est extraordinaire. Alors bien évidemment, il y a des gens qui savent très bien, des clients qui savent très bien entretenir leur rosier, puis d'autres des novices. Et on est là pour les renseigner. C'est pas innocent non plus. On est là pour vendre des plantes. Et un client qui est content, bah c'est un client qui va revenir. Et notre en plus de la qualité de nos rosiers, on a une image de marque aussi. De conseils, et tout au long de l'année on conseille.
C'est aussi les grandes questions que tout le monde se pose. Il y a les grands classiques: quand est-ce que je dois tailler le rosier, jusqu'où je dois le toyer, mais finalement si je le taille mais j'aurai pas de fleurs, c'est toutes ces questions en fait des novices.
On parlait tout à l'heure quand vous êtes venu sur le stand, j'étais en train de parler des rosiers grimpants. Effectivement, si, à partir du moment où vous avez compris comment on palisse et on taille un rosier grimpant, c'est la même chose pour tous les rosiers grimpants. Et il suffit de le savoir. Et après, c'est un plaisir d'avoir des rosiers grimpants chez soi, surtout avec une profusion de fleurs, s'ils sont bien taillés, qui est sans commune mesure avec des rosiers qui vont monter tout droit. Parce que quand on parle de rosier grimpant, on dit on veut qu'il grimpe le plus haut possible. Donc le plus vite possible, c'est tout droit. Et là, c'est l'erreur fatale parce qu'en fait, vous aurez des fleurs qu'en haut et non pas sur toutes les branches. Comme j'expliquais tout à l'heure.
Voilà, il y a des petites techniques comme ça du spécialiste. Pour terminer, est-ce qu'il y a une rose que vous préférez à d'autres, une rose qui vous rend un peu plus fier dans ce que vous proposez? Est-ce qu'il y a une rose en particulier?
Alors, on en a beaucoup.
Personnellement, je viens chercher votre goût.
oui, alors dans ce cas-là, je vais avoir du mal à en sélectionner une. Par contre, il y en a une qui sort du lot chez nous, chez Rose Andréève, c'est Jardin de Granville. On l'a d'ailleurs sur le stand. C'est une magnifique rose qui a été créée en 2010. C'est une rose blanche porcelaine. Excusez-moi. Rose porcelaine qui blanchit en fin de floraison. Très résistante aux maladies. Très remontante. Elle peut fleurir jusqu'au gelé. Un parfum très, très subtil. Et le plus qu'elle a, cette rose, par rapport au fait que c'est une rose, c'est qu'en fait, c'était la rose qui a été baptisée par les parfums Dior. Alors, les parfums Granville, parce que Christian Dior est originaire de Granville. Donc, les parfums Dior l'ont baptisé, non pas pour la parfumerie, mais pour la cosmétique. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des champs sur Granville, nous avons des champs de production de Jardin de Granville. Nous ramassons les fleurs, bientôt nous allons ramasser les fleurs d'ailleurs à Granville. L'essence de la rose de Granville est extraite sur place. Et donc, cette essence entre dans la composition de toute la gamme Prestige en cosmétique chez Dior. Donc c'est vraiment la rose par excellence qui nous a fait connaître dans le monde de la cosmétique via Dior. Mais c'est une création extraordinaire de mon collègue qui s'appelle, parce que vous m'interviewez moi, mais je vais quand même donner un petit peu le nom du créateur qui a fait toutes ces belles roses depuis les années 2000. Il s'appelle Jérôme Ratteau. Et donc on peut dire que c'est le papa de Jardin de Granville, comme de la majeure partie des roses qui sont sur notre stand.
Très bien, merci beaucoup à vous François de chez Andréève d'être passé par nos micros pour en savoir un peu plus sur les roses. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous de m'avoir invité, au revoir.
Damien, je me retourne vers toi et te propose, si tu le veux bien, une pause musicale. With those sunken eyes of stone, you pursed up your lips, you rose up your chin and tried to stop it at my state. Stop. Oui, c'était à nous, tout à fait. Mais on discute aussi avec les gens qui sont installés en plateau. Allez, vous écoutiez Shame Spartak. Voilà, on me reprend sur mon niveau d'anglais. Je n'ai aucune idée de savoir ce que ça veut dire, mais c'était plutôt bien.
Principe actif.
Comme une antenne capte une multitude de fréquences, pour écouter la radio, il faut bien sélectionner une fréquence. Ça, c'est le rôle du tuneur.
Nous nous excusons de la mauvaise qualité du son, dont la cause est indépendante de nos installations.
C'est pas mal, Jamy, mais j'entends pas terrible, hein. Ça grésille.
Et la FM, c'est fait pour quoi ?
Principe actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe actif, le mix des cultures.
Ils ont des super badges, hein, nos invités, mais bon, ça, on en reparlera dans un instant. Nous sommes toujours en direct, en live et en public, du Salon des Plantes sur le parc de Trangis à Évreux. Vous pouvez nous y rejoindre, bien entendu, c'est ouvert aujourd'hui et demain, et on y est bien. L'entrée est gratuite, il n'y a aucune raison de ne pas venir s'y promener. Et là, on a un plateau radio qui me fait particulièrement plaisir. Nous avons de jeunes collégiens sur leur projet de micro, comment est-ce qu'on appelle ça? Mini-entreprise, voilà, c'est ça, mini-entreprise. Ils me font oui avec la tête, mais il n'y en a pas un qui me parle. Hein. Vous allez voir, je vais les faire parler au bout d'un moment. Les voyageurs, ils viennent du collège des 7 épis. Ils sont accompagnés de leur professeur, Madame Duchazo-Bennett.
Duchazo-Bennett.
Benex.
Oui.
Ah, mais c'est dingue. En fait, on a l'habitude de s'appeler par nos prénoms, bah voilà. Donc du coup, je suis perdu dès qu'il y a le nom. C'est terrible, hein ?
Oui.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien, et toi ?
Bah, très bien, merci. Alors, pour vous dire, on intervient, principe actif, sur le collège des 7 épis tous les ans, depuis un petit moment maintenant. Et là, on est sur la mini-entreprise. Et je suis avec Ethan, Nina et Lina. Comment allez-vous, jeunes gens ?
Très bien, et vous ?
Eh ben merci, très bien aussi. Alors en quelques mots, quelle est cette mini-entreprise Les Voyageurs ? Parlez-moi un petit peu de ce projet, d'où il parle ? Quel est son objet à ce projet ?
Eh ben...
Oui ? Eh ben... C'est impressionnant, ça fait toujours ça hein, au début, mais on est entre nous, rassure-toi, tout va bien. Allez, on recommence, Lina. Quel est ce projet ?
Cette année, on a choisi un thème sur lequel on voulait se baser. Donc, on a choisi le thème du voyage. Et avec ce thème, on a pu choisir notre nom, notre slogan et notre produit. On a décidé de commercialiser un kit de voyage avec tous les essentiels de base pour partir en vacances ou en week-end au plus proche de chez nous parce que notre projet il est éco-responsable et le but c'est de promouvoir un tourisme local et éco-responsable.
Alors juste avant d'arriver sur ce qu'est le tourisme éco-responsable et local, j'imagine que vous avez des choses à dire. Moi je voulais voir Nina, c'est quoi un kit ? Qu'est-ce qu'il y a dans un kit ? Qu'est-ce qu'il y a dans vos kits en fait Nina ?
En fait dans nos kits il y a essentiellement il y a des savons et des shampoings solides. Pour faciliter l'accès et pour faire beaucoup moins de déchets, donc dans un côté éco-responsable. On a des portes dentifrice simples et doubles. Donc les doubles permettent d'y glisser un dentifrice qu'on peut acheter en commerce, ainsi qu'une brosse à dents, les simples seulement la brosse à dents. On a donc un petit porte-clé avec on retrouve notre nom. On a aussi un porte-savon et un porte-shampoing, donc avec un tissu enduit à l'intérieur pour pas que ça salisse. On a aussi un dentifrice solide, donc ça dure généralement plus longtemps que les dentifrices qu'on achète dans le commerce, puisque c'est solide, du coup on en prélève moins. On a un baume à lèvres, donc c'est fait au miel, certains l'ont mangé. On ne citera pas non.
J'ai Lina qui rigole à côté de toi. Il était bon, Lina ?
Et délicieux.
D'accord. Donc un baume à lèvres délicieux.
Une brosse à dents en bambou. Donc la seule chose qu'on a achetée, je crois. Toujours pour le côté responsable. Ainsi qu'une trousse, du coup, qui est un peu la pièce maîtresse. Et donc il y a plusieurs coloris qu'on peut choisir. Et sur le devant, on retrouve un billet de jean. Donc un jean recyclé pour le côté responsable toujours.
Moi, je voulais savoir, Ethan, quand on travaille sur un équipement comme ça, ce qu'on appelle éco-responsable, et on voit bien, Nina était en train de nous expliquer le choix des démarches, comment est-ce que vous avez constitué cette éco-responsabilité? Comment vous avez fait pour... est-ce que c'est inné, parce que vous êtes jeune, vous savez ce qui est éco-responsable, ou il y a eu un travail de recherche, de matériaux, d'utilisation, comment ça s'est passé, cette démarche-là?
Alors, déjà, on a fait des études de marché pour savoir qu'est-ce qui convenait à nos clients, à la clientèle. On a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait vendre et pourquoi, enfin, qu'est-ce qui était le mieux pour nos ventes. On a choisi l'aspect éco-responsable puisque c'est notre projet et ça permet de nous représenter facilement.
Vous avez fait des recherches, comment savoir que là, à l'instant, Nina était en train de me dire que le dentifrice solide durait bien plus longtemps, qu'il y avait des choses comme ça qui étaient mieux pour l'environnement. Vous avez fait des recherches?
Alors, on a fait des tests, des prototypes pour savoir lequel était le mieux. Et on a testé, et on a testé sur nous et pas sur les animaux. Du coup,
Lina a testé, elle, le baume,
ouais,
c'est ça.
Elle a tout mangé, ouais.
Comment s'est passé ces tests? Alors moi je veux tout savoir, comment ça s'est passé ces tests?
Alors même par exemple on s'est ramené avec des brosses à dents au collège et on s'est tous mis dans les toilettes et on a mangé. Enfin on a non. On s'est brossé les dents et on a testé pour voir ce que ça faisait et si c'était bien ou pas. Et du coup c'était très bien. Et voilà. Même les professeurs ils se sont brossés les dents avec nous. C'était assez, assez drôle.
Très bien. Alors justement, Madame Duchasseau-Bénex, comment on travaille ce projet? Comment tu as travaillé ce projet avec les jeunes? Et dans quel but?
Alors la mini-entreprise, c'est un projet qui existe depuis 14 ans au collège des 7 épis. Le but, c'est de leur donner une approche du monde professionnel qui soit plus concrète en fait que le simple stage d'observation qu'ils ont en entreprise en 3e. Et donc là, ils montent leur projet de A à Z, du 1er septembre au 30 juin, en choisissant tout, le logo, le slogan, le but de leur vente, et même l'association à qui ils vont redonner leur fonds. Et le but, c'est de les amener à plus d'autonomie, prendre confiance en eux, travailler en groupe, voir qu'on est plus fort à plusieurs plutôt que tout seul. Et puis, montrer aussi que la réalité de la vente, c'est pas toujours facile, parce que des fois, ils se prennent des murs, donc c'est pas toujours simple, il faut savoir rebondir.
Alors moi je voulais revenir un peu tout ça parce qu'en fait votre professeur était en train de l'expliquer que c'était une mini entreprise. On a quand même la chance d'avoir la PDG avec nous. Hein, comment on est PDG d'une mini entreprise? Rassurez-vous, il y en a pour les autres hein, parce qu'elle est adjointe, hein, Nina à côté, elle est PDG adjointe. Hein.
Alors dès le début de la 3e, on commence la mini entreprise donc. Et on doit postuler pour un poste, donc on fait un CV et une lettre de motivation et on passe devant un jury. Et selon ce qu'on s'est présenté, on va se faire un peu, on passe un entretien. Et à la fin, on a notre poste.
Ce sont les autres élèves qui attribuent les postes? Comment ça marche?
Non, ce sont le jury en fait.
Qui est ce jury?
Alors, il y avait notre directrice. Notre directrice adjointe, un ancien mini-entrepreneur et qui était aussi notre ancien parrain. Et il y avait des personnes qui venaient de la banque. Et il y avait notre parrain actuel, Monsieur Lebert.
Qui est Monsieur Lebert?
C'est notre parrain.
Mais il fait quoi dans la vie, Monsieur Lebert?
Il est ancien prof d'histoire. Et principal de collège.
D'accord, donc il a ce regard-là. Alors, ça fonctionne comme une vraie entreprise, en fait. Hein. C'est ça l'objet, c'est de passer sur une vraie entreprise. Comment s'est passée la partie? Là, j'ai des cartes de visite, par exemple, de l'entreprise. Il y a un site internet sur lequel on peut trouver des éléments. Comment ça s'est construit? Dans quel contexte ça s'est construit, tout ça?
Alors,
c'est toi de la com, en fait. T'es responsable com, en fait, Ethan, on peut le dire.
En communication et marketing. Du coup, moi et ma camarade Nina, au début de l'année, on a créé le logo ensemble. On en a fait plusieurs. Après, on a fait un vote dans la classe pour savoir lequel il préférait. Et tout ce qui s'occupe de publicité, c'est là où je travaille avec mes camarades. Par exemple, mon adjointe qui est Océane, elle s'est occupée du panneau. C'est un grand panneau qu'on a emmené à la foire de Rouen. Il y avait, elle fait aussi, elle s'occupe du compte Instagram. Donc, elle poste régulièrement du contenu pour mettre à jour et montrer ce qu'on fait en fait.
Le slogan, c'est voyager léger en toute sérénité, c'est ça ?
Oui.
Comment il s'est passé quoi pour comment ça s'est passé la création de ce slogan ? Parce que c'est important un slogan.
Oui. En gros, on représente une image notre mine entreprise et on voulait que ça représente le plus notre image. Donc voyager léger en toute sérénité, il a été choisi via un vote. Du coup, on s'est tous mis d'accord sur celui-là et en fait, on en a mis plein en tête et du coup, c'est lui qui est ressorti le plus parce qu'il sonnait bien et il nous représentait bien.
Bon, du coup, cet été, vous irez voyager léger en toute sérénité, j'imagine.
Ah oui, absolument. Avec nos kits. Hein.
J'imagine bien. Ce kit, il est adapté à quelles vacances ? Les vôtres, forcément. Vous savez déjà comment vous allez l'utiliser, ce kit ? À quel endroit vous allez utiliser ce kit-là ? Je fais un petit tour des vacances que vous avez prévues. Alors, Lina ? Où est-ce qu'il va aller voyager ton kit ?
Alors, le principe, ce serait qu'il voyage au plus proche de chez nous. On veut faire découvrir le patrimoine normand et montrer les richesses de notre région. On a aussi fait des affiches qu'on propose à vendre, en fait, et du coup, qui permet de montrer les lieux touristiques jolis dans la région de Normandie. Et le but, c'est vraiment de voyager pas très loin pour limiter l'empreinte carbone.
Toi, t'as un endroit préféré dans le coin, pas très loin ? Toi, Lina, est-ce qu'il y a un endroit dans tout ce que t'as fait comme recherche qui te plairait plus qu'un autre ?
Giverny.
Lina, toi, il y a un endroit dans le coin qui te...
Moi, je pense Rouen.
Rouen ?
Ouais.
D'accord. Et toi, Ethan ?
C'est pareil, Rouen, c'est la ville où je suis né et c'est l'endroit où j'aime bien y aller.
Eh bien, très bien. Madame Duchasseau Benex,
oui.
Et toi, il y a un endroit en Normandie qui te plaît plus qu'un autre ?
Alors, juste pour embêter mon collègue, le Mont-Saint-Michel.
D'accord. Mon collègue est breton.
Tout à fait.
Bon, voilà. Merci beaucoup à vous d'être passés par nos micros, Ethan, Nina et Lina. On rappelle qu'on peut trouver sur Internet très facilement cette mini-entreprise, les voyages apostrophe heure, E-U-R-E, bien entendu, pour voyager léger, en toute sérénité et pas très loin. Merci à vous d'être passés par nos micros.
Merci beaucoup.
Eh bien, je me retourne vers toi et je te propose à nouveau une pause musicale.
venez d'écouter The Deep avec Sure Don't Miss You, qui seront bien sûr à l'affiche de Ça sonne à la porte. Signature Coleman Records, rien que cela pour vous, s'il vous plaît, ce sera très très chouette.
Comme une antenne capte une multitude de fréquences, pour écouter la radio, il faut bien sélectionner une fréquence. Ça, c'est le rôle du tuneur.
Nous nous excusons de la mauvaise qualité du son, dont la cause est indépendante de nos installations.
C'est pas mal, Jamy, mais j'entends pas terrible, hein. Ça grésille.
Et la FM, c'est fait pour quoi ?
Principe actif, à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe actif, le mix des cultures.
Toujours en lieu et place du Salon des Plantes au parc, au domaine de Trangis, que dis-je, depuis maintenant en direct 12h30. Mais l'ouverture des portes, c'était 10h, ça fermera à 18h. C'est encore le cas demain, 10-18, avec des professionnels, avec des artisans, avec des ateliers, avec de l'expo, avec de la nourriture. Bref, un vrai bon moment, agréable, le tout en totale gratuité pour tous les âges et pour tous les goûts. Et j'ai envie de dire presque les portefeuilles. J'ai le plaisir d'enchaîner avec un artisan, j'ai envie de dire un artisan d'art. Est-ce que, Béné, je te présente bien en disant ça, est-ce que tu qualifies ta pratique d'artisanat d'art, en tout cas, puisque c'est un peu artistique, c'est l'artisanat, c'est fait manuellement. Est-ce que c'est pas un mot qui te chatouille, si je dis ça comme ça ?
Non, justement, je crois que c'est très artistique ce que je fais. Je ramène justement un côté art dans les objets du quotidien, dans les cuillères, voilà, les objets qui peuvent servir à manger, etc. Et je ramène vraiment un côté artistique, une beauté en plus de ce qu'on peut connaître en fait de la cuillère, on va dire.
Justement, voilà, tu mets le pied dedans. Je voulais un peu teaser le truc et revenir sur ce sujet, je t'en prie. Une matière déjà essentielle, noble de surcroît, le bois.
C'est ça, exactement.
Et ensuite on viendra sur les déclinaisons, parce qu'effectivement il y a du pratique mais il y a aussi du décoratif, si je ne me trompe pas en ayant observé ton stand. Cette matière, c'est le bois, mais c'est du bois du coin, pas du bois exotique que tu as été chercher ou commander sur des sites internet.
Exactement, donc c'est que du bois glané en forêt, donc j'abats aucun arbre vivant pour faire ça. C'est que du bois que je vais récupérer aussi des gens qui font de l'élagage, des choses comme ça, donc soit du bois forestier, soit du bois fruitier. Voilà, ils ont toutes leurs particularités, des couleurs, enfin des nervures un peu différentes, etc. Elles expriment déjà de l'art d'une façon, mais je viens rapporter quand même quelque chose en plus avec des techniques qui viennent, on va dire, du monde entier. Voilà, Scandinavie, aux États-Unis, en Angleterre, là où on a développé un peu plus, on va dire, l'art de la cuillère. Ou peut-être en France, on l'a fait, mais il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus vraiment de vestiges de tout ça. Et puis, je remets ça un peu au goût du jour, quoi.
La cuillère, vaste sujet.
C'est clair.
Élément essentiel pour s'aider à se nourrir, même si, en fait, nos doigts et les mains le permettent grandement, bien sûr. Il y a toute une panoplie de couverts possibles. Mais la cuillère, en fait, sous toutes ses formes, parce qu'il y en a des petites, il y en a moyennes, il y a des grandes. Et elles ont des utilisations différentes. Après, on va parler des textures, des beautés de celles que tu vends, mais... t'as étudié aussi ce truc-là ? Parce que mine de rien, il y a la cuillère à soupe, il y a la cuillère à café. Est-ce qu'on est comment ? Ou là, on est plutôt sur la cuillère à cuisiner ?
Alors en fait, c'est un peu de tout. Moi, je sculpte en fait en fonction de mon état, un peu là où je suis dans le moment, tu vois. Et j'ai pas de patron, je fais pas de série. Je vais dessiner ma cuillère à main levée. Et j'ai pas d'idée préconçue sur l'utilité de la cuillère. C'est plutôt les gens, quand ils rencontrent